CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bon midi. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, la réduction des seuils d'immigration par Ottawa et Québec, les mauvaises nouvelles quant à la situation du français et en dépit de ces nouvelles, les coupures en francisation, tout ça a relancé, pour ne pas dire exacerbé, le débat sur l'immigration. Comment l'immigration se vit-elle dans la région ici? Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'elle soit réussie? Les gens venus, d'ailleurs, trouver chez nous du travail, un logement décent, un filet de sécurité pour leur famille, une terre de liberté, sont-ils bien servis ou mal servis? Ce sont ces questions-là que je vais soumettre à mes invités. Sika Gauthier-Adomont, qui est chargée de projet en immigration à la MRC de Pierre de Sorel. Nathalie Rochefort, présidente à De Gamma Fondation, service d'accueil et d'orientation de première ligne de la population immigrante. Albert Kelfa, ex-député de Richelieu, son successeur Sylvain Simard, ministre de l'Immigration en 2000-2001. Luc Martel, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel. Et Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu. Je leur parle après la pause.
Ici Luc Deloncourt, je vous invite à assister à l'enregistrement de l'émission Studio 101 lundi le 2 décembre à 19h30 avec Gueule de bois.
Travailler, travailler, quitte à mourir à force de travailler.
Et les Rotswamp.
Donden, Lariden, Matapatali, Matou, Matantalou, Mali, Matou, Matapatali, Matou, Matantalou, Malaké.
L'émission est enregistrée à la salle du Centre de services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel. Il suffit de vous procurer vos billets à CJSO. Studio 101 vous est présenté par
l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton.
En collaboration avec
la bijouterie Daniel Blett.
Le pro du conduit Edel.
La ferme du barbu Boucherie Royale.
Voyage Richelieu.
Pure détente et spa.
William J. Walter, saucissier.
Jean Coutu, Tracy.
Et gestion événementielle Deschênes.
Pendant le conflit de travail à Post-Canada, le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour que les personnes concernées reçoivent les sommes auxquelles elles ont droit. Les chèques de plusieurs ministères et organismes sont distribués dans la plupart des bureaux de Service Québec. Pour savoir quels chèques seront remis et où et quand ils seront distribués, consultez le site québec.ca/grève-post-canada ou communiquez avec Service Québec au 1-877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
Express Pub.
C'est la grande guignolée du Cap du Bar Richelieu le 28 novembre dans les rues de Sorel-Tracy et le dimanche 1er décembre dans leurs locaux au 70 rue Élisabeth. Que ce soit un don en argent ou en denrées, cette année, faites parler votre cœur. Distinguez-vous chaque jour de l'année avec les parures élégantes de la bijouterie Daniel Blett. Bracelets, boucles d'oreilles, colliers de perles de culture ou encore une montre italienne Maserati raffinée et haut de gamme exclusive à la bijouterie Daniel Blett. Vous comptez faire la grande demande? Offrez-lui la plus belle bague de fiançailles en diamant ou en or blanc, jaune ou deux tons. Nous saurons vous aider à faire le bon choix pour ravir les yeux et le cœur de l'être cher. Pour des bijoux et montres pour elle et lui, selon vos goûts et votre budget, bijouterie Daniel Blett.
La Tribune. Une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Alors, c'est au dossier de l'immigration qu'on s'intéresse ce midi. Comment se vit-elle dans la région? Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'elle soit réussie? Les gens venus d'ailleurs trouver chez nous du travail, un logement décent, un filet de sécurité pour leur famille, sont-ils bien servis? Je m'entretiens d'abord avec Sika Gauthier-Adomont, qui est chargée de projet en immigration à la MRC de Pierre de Sorel. Bonjour.
Bonjour.
Le Québec est pour vous-même une terre d'adoption?
Moi, le Québec est une terre d'accueil parce que je suis arrivé au Québec ici depuis 2017.
Est-ce qu'on est hospitalier, les Québécois?
Oui, oui, moi, mon accueil et puis mon intégration s'est bien passé. Puis je trouve que les Québécois sont beaucoup hospitaliers.
Votre travail à la MRC, c'est précisément que la région le soit de plus en plus hospitalière?
Non, ce n'est pas que la région reçoit de plus en plus, mais c'est de rendre la région plus attractive et puis comment bien accueillir et bien intégrer les personnes immigrantes que nous recevons dans notre région.
On immigre à Sorel de plus en plus?
Bon, l'immigration n'est pas tellement en hausse à Sorel-Tracy. Il faut dire qu'à Sorel-Tracy, les résidents permanents qu'on considère comme les immigrants selon Statistique Canada représentent environ 2,4% de la population totale. Maintenant, côté des résidents permanents, nous avons les résidents non permanents qu'on appelle les résidents temporaires. Il y a les travailleurs et les étudiants qui sont au nombre de, selon les dernières statistiques, de 120, qui représentent 0,4% de la population.
Mais si on prend toutes ces catégories de personnes venues d'ailleurs chez nous, est-ce qu'on peut parler d'une croissance exponentielle ou pas?
Non, pas une croissance exponentielle, surtout au niveau des résidents permanents, des résidents qu'on nous appelle les immigrations économiques, ce que le Québec choisit. Ces dernières années, avec la fin de la pandémie, où on n'a plus observé une hausse d'immigration, c'est au niveau des étudiants, on va le dire, et puis on a eu aussi la vague d'immigration avec les Ukrainiens. Donc c'est dans ces deux catégories-là que se trouve un peu une hausse de l'immigration dans notre région.
Manquant de main-d'œuvre ici, là, à Sorel-Tracy, on a besoin de travailleurs étrangers. Voit-il ici ces travailleurs leurs besoins essentiels comblés, logement, médecins, place en CPE s'ils ont de jeunes enfants?
Oui, c'est dans ce contexte-là que le projet de la MSC avec le ministère de l'Immigration a tout son sens, parce que ça nous permet de regrouper tous les partenaires, tous les organismes autour de la table de concertation pour pouvoir identifier tous ces enjeux-là, les enjeux que nous avons identifiés récemment. Nous avons fait une journée de sensibilisation et de réflexion. Donc les enjeux, effectivement, il y a le logement, l'accessibilité aux services de base, l'accès aux emplois. Donc nous avons essayé d'identifier ces enjeux-là pour pouvoir essayer d'apporter plus de solutions. Mais il faut dire que les nouvelles mesures, les nouvelles lois créent encore de nouveaux enjeux qui se présentent dans la région, comme la fin du financement de la francisation qui crée encore un nouveau défi pour nous.
Ben oui, c'est tellement inexplicable cette histoire-là. Les gouvernements fédéral et québécois ont annoncé leur intention là, de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Ottawa s'est donné pour cible de ramener leur proportion à 5 % de la population d'ici 2027. Québec de réduire de 50 % les permis émis par le gouvernement fédéral. Est-ce que ce sont de sages décisions, ça?
Bon, déjà, dans notre région, on a déjà de la difficulté dans le recrutement et la rétention des employés. Parce que, bon, tous les services, contrairement à Montréal et puis aux autres grandes villes, tous les services ne sont pas présents à Sorel-Tracy. Donc, quand les personnes immigrantes arrivent, quand il y a déjà des manques de services, elles sont amenées à aller vers les autres centres de région. Maintenant, ces gens de décision aussi contribuent à mettre aussi la pression sur les employeurs qui n'arrivent pas à retenir les personnes immigrantes. Mais de notre côté, au sein de la MSC, avec tous les autres partenaires en immigration, nous essayons de trouver pas des solutions, mais de sensibiliser, parce que l'accueil des personnes immigrantes se passe aussi au sein de la population d'accueil. Donc nous essayons de sensibiliser la population d'accueil pour que l'intégration de ces personnes immigrantes-là se passe bien. Parce que c'est vrai, il y a le travail, que l'emploi que ces personnes-là doivent en avoir, mais il faut que dans l'environnement où ces personnes immigrantes-là sont, pour qu'elles se sentent à l'aise, bien accueillies et puis bien intégrées.
Très bien. Écoutez, je dois...
Mais il y a l'environnement extérieur aussi qui se passe.
Bien. Je dois déjà vous remercier, Sika Gauthier-Adomont. Sika Gauthier-Adomont est chargée de projet en immigration à la MRC de Pierre de Sorel. Merci beaucoup.
Merci bien, Sylvain.
Merci. Je me tourne vers Nathalie Rochefort, qu'on a connue comme candidate libérale aux dernières élections dans Bécancour-Nicolet Sorel. Elle préside la Fondation Agama, un service d'accueil et d'orientation. Oui, de Gama, un service d'accueil et d'orientation de première ligne de la population immigrante. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Sylvain.
Je disais en introduction de l'émission que le débat sur l'immigration avait été notamment exacerbé par l'élection de Trump aux États-Unis, qui a promis de lancer le plus grand programme d'expulsion d'immigrants de l'histoire au jour 1 de sa présidence. Il y a un vent de panique, là, je ne pense pas exagérer, qui se répand dans certaines communautés aux États-Unis. Comment vous vous êtes senti, vous, à l'élection de Trump?
Un peu déboussolé. Parce que, bon, comme beaucoup, je suivais les sondages, mais en même temps, pas tellement surprise qu'on ait eu du vent de populisme montant. On l'entend aussi au Québec, une espèce de roll-ball de repli sur soi. Mais heureusement, les immigrants qui sont déjà ici se sentent en sécurité parce qu'on est au Canada.
Des experts, Nathalie, croient qu'il faut se préparer dès maintenant à des vagues d'immigration à la frontière canadienne. À cause de Trump aux États, est-ce que vous le pensez aussi?
Oui, le téléphone a déjà commencé à sonner d'ailleurs à ce propos. De gens qui ont de la famille ici principalement qui appellent en disant « Ben écoute, Nat, on a-tu une façon de faire venir notre famille qui sont à Miami, à New York, principalement dans les communautés latines et haïtiennes? » Des gens qui, pour la communauté haïtienne, pour la plupart, vont parler déjà français ou au moins le comprendre. Communauté latino, ben ça, c'est une autre game. Mais oui, le téléphone a déjà commencé à sonner.
Autre élément qui ponctue le débat sur l'immigration, la réduction des seuils d'immigration par Ottawa et Québec. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée?
Je dirais que c'est une réponse en deux parties, oui et non. Oui, parce qu'on a accueilli beaucoup de gens très rapidement, notamment avec les réfugiés syriens et ukrainiens dans les 5-10 dernières années, ce qui a augmenté la pression, mais non parce que ça cause des problèmes à nos entreprises. J'entendais l'interlocuteur précédent parler de francisation. J'ai un exemple patent dans la MRC de Sorel. Le monsieur vient d'Amérique latine. Il essaye d'apprendre le français après avoir travaillé 10 heures dans une usine. Et on s'entend qu'à plus de 40 ans, apprendre le français, c'est peut-être pas si simple. Par contre, ces 400 enfants, ils sont là depuis 5 ans, parlent parfaitement français, sont parfaitement intégrés, mais là, leur permis de travail va être annulé parce que c'est des permis de travail renouvelables. Et malheureusement, ces enfants qui connaissent principalement le Québec vont être retournés dans leur pays d'origine.
Vous parlez tous les jours à des gens là, venus d'ailleurs dans le monde, trouver chez nous du travail, un logement décent, un filet de sécurité pour leur famille. Est-ce qu'ils sont bien ou mal servis?
Ça dépend beaucoup des régions, ça dépend aussi beaucoup des humains qui s'en occupent. Bon, c'est pas quelque chose de caché, j'ai une dent, même un dentier contre le MIFI, qui est un meilleur de problématiques. Parce qu'en limitant à 5 ans les services pour les personnes immigrantes, ben on cause d'autres problèmes. Okay? Par exemple, une femme qui décide d'avoir un enfant alors qu'elle ça fait 4 ans et demi qu'elle est au Québec, ben les services sont peut-être pas aussi adaptés à sa condition. Elle les connaît pas nécessairement parce qu'elle n'a pas eu affaire à notre système de santé. Mais comme elle est pratiquement sur son 5 ans, elle n'aura plus de service des organismes pour l'accompagner.
Quels sont les ingrédients, Nathalie, à votre point de vue, d'une immigration réussie? Que doit-on, pour ça, mettre en place qui ne l'est pas déjà?
Relire le survenant.
Bonne idée!
Parce qu'on est tous l'étranger de quelqu'un. OK? Donc, ça passe beaucoup par la communauté d'accueil. J'ai migré, moi, au centre du Québec en 2018. C'est chose sue. Mais n'eût été de la qualité de l'accueil, probablement que je ne serais pas restée.
Dernière question, Nathalie. Ce n'est pas parce que l'immigration est un dossier sensible, délicat, clivant, qu'il faut faire l'économie d'en parler. C'est important d'en parler.
On doit continuer d'en parler. On doit continuer de parler aussi du fait que c'est pas que des travailleurs qu'on accueille, c'est d'abord et avant tout des humains. Ça semble un peu idiot d'être obligé de le rappeler, mais la personne qui ne fait qu'aller au travail, rentrer à la maison, et pour retourner au travail le lendemain, elle n'est pas intégrée. Donc, on doit absolument s'occuper du volet social, familial, mais aussi personnel. L'humain, là, si on regarde la pyramide de Maslow, a des besoins fondamentaux de se nourrir, de se loger, entre autres. Mais après ça, il y a des besoins sociaux qui viennent. Et ça, on doit beaucoup en parler. Et ce que je trouve formidable, c'est que dans les dernières années, dans les petites municipalités, il s'est mis en place des comités d'accueil. Donc, on a des personnes, des citoyens dévoués qui sont là pour accompagner, pour aider, pour dire, ah oui, OK, tel produit, tu peux faire telle chose avec. Et mon exemple préféré, c'est le maïs. Le maïs, au Québec, on le mange sur l'épi la plupart du temps, pendant à peu près un mois d'août. Mais il y en a d'autres pays où c'est de la farine, c'est un aliment de consommation régulière. Donc, on a tous des points en commun.
Oui, oui, et des choses à apprendre de l'autre. Merci beaucoup, Nathalie Rochefort. Merci.
Plaisir, à bientôt.
Bye. Merci, à bientôt. Après la pause, deux ex-députés, Albert Kelfa et Sylvain Simard, et le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, Luc Martel.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
La campagne nord-américaine pour la protection des pollinisateurs remet le prix du producteur agricole canadien à Paul Caplet, copropriétaire de Céréales Bellevue à Saint-Robert. Ce prix lui est octroyé en raison de ses efforts marqués et concluants en matière d'agro-environnement. Le prix du producteur agricole canadien reconnaît des producteurs agricoles qui contribuent grandement à la protection et à la conservation des pollinisateurs et fournissent des efforts de sensibilisation pour mieux les faire connaître au sein de la communauté agricole. Depuis 2006, la ferme Céréales Bellevue a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 33 % et l'utilisation de pesticides de plus de 30 % et ce tout en augmentant les rendements aux champs. Ces efforts ne s'arrêtent pas là car Céréales Bellevue cherche à atteindre la carboneutralité d'ici 10 ans.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Vous êtes tous conviés au marché de Noël à l'église Saint-David le 23 novembre prochain dans une ambiance festive et unique. Plus de 40 exposants, promenade en calèche, Père Noël, maquillage pour enfants, camion incendie, zone extérieure chauffée, programmation musicale dont le grand chœur Sorel-Tracy et tirage d'ensemble de cadeaux. Le food truck Queue de Castor servira poutine, queue de castor, café et chocolat chaud. Achetez votre sapin naturel sur place et n'oubliez pas votre argent comptant et vos sacs réutilisables. Bienvenue à tous!
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Alors, c'est à l'immigration qu'on s'intéresse ce midi à la Tribune. Mon prochain invité, c'est la représentation même d'une immigration réussie. Il est né au Caire, en Égypte, où il est diplômé en chirurgie dentaire. Il obtient en sol québécois, notamment, j'insiste sur le notamment, un bac en enseignement spécialisé et un brevet d'enseignement. Et il devient professeur de biologie comparative et de biologie humaine à l'école secondaire Fernand Lefebvre de 69 à 83, puis d'anglais à l'école primaire Jean de Brébeuf de 83 à 85. Ce n'est pas tout. Il est élu député libéral de Richelieu en 1985, poste auquel il représente ses concitoyens jusqu'en 1994. Tout le monde aura, au bout de cette présentation, reconnu Albert Kelfa. Bonjour Albert.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Oui, ça va bien. Vous, comment allez-vous?
Moi, ça va, merci.
Albert, quel âge aviez-vous à votre arrivée au Québec?
24 ans.
24 ans. Pourquoi le Québec et puis pourquoi Sorel?
Oh, c'est une longue histoire, mais quand même, Sorel, c'était l'endroit où j'avais un poste. Puis là, j'ai adopté Sorel, puis Sorel m'a adopté.
À Sorel, quand vous y êtes arrivé, là, à l'âge de 24 ans, vous y êtes arrivé seul?
Oui, oui, oui.
Vous étiez loin de vous douter, à votre arrivée en sol québécois, qu'à l'âge de 40 ans, vous alliez siéger à son Assemblée nationale?
Pas du tout. Le hasard est le fait de mon implication, puis mon travail avec le monde. Puis le monde, ils ont décidé que je sois le représentant à l'Assemblée nationale.
Il est difficile de trouver démonstration plus puissante d'intégration que celle-là. Là. Être élu par sa région d'accueil
pour la représenter, pour parler en son nom, pour se battre pour elle. Ça a été quoi votre recette d'intégration, Albert Kelfa?
L'écoute, puis aimer le monde, puis le monde m'aimer. Puis c'est une dynamique mutuelle, une chimie mutuelle. Puis j'ai pris à cœur de défendre les intérêts de mon monde. Puis ils ont cru en moi pendant la période que j'étais là. Et je les remercie, ça c'est un honneur qu'ils m'ont fait, puis je le garde toute ma vie comme une médaille d'honneur.
Mais ce qui vous a mené là, 16 ans après votre arrivée à Sorel, qu'est-ce que c'est en termes d'intégration? C'est à petits pas que vous vous êtes intégré au fil de diverses implications. Racontez-moi ça un peu plus avant.
Oh, c'est au niveau de l'école. J'étais délégué syndical. Puis je me suis impliqué au Club Richelieu où on aidait les jeunes qui avaient besoin d'une aide. Puis le Club Lyon. Dans les activités sociales, dans l'activité qui touche le monde, le quotidien du monde, je me suis impliqué pour travailler avec puis améliorer le sort du monde autour.
Alors, vous avez vite fait d'adopter le Québec, d'adopter Sorel, et Sorel a vite fait de vous adopter.
Oui, m'a adopté, parce que ça a été bien. Mais remarquez bien, le problème actuel, c'est pas l'immigration, c'est la migration. La migration qui n'est pas contrôlée. Actuellement, et il y a une sorte de déplacement de population qui cherche un meilleur avenir, mais sans avoir une structure. Et c'est ça le problème. On a besoin de main-d'œuvre dans quelques domaines qui arrivent structurés, c'est correct, mais d'autres qui sont pas choisis, ils sont pas visés dans l'action. Ils rentrent, puis là, ils s'installent, puis à un moment donné, ça devient des réfugiés. Puis là, ça alerte un peu, puis ça touche un peu la sensibilité de la population.
Ce que je vous entends souhaiter, c'est une immigration mieux structurée qui serait, elle, rentable pour le pays hôte et la personne immigrante.
Effectivement.
Ah, c'est ça, en quelques mots. C'est un vaste sujet, l'immigration, Albert, que nous ne pouvons, en si peu de temps ensemble, qu'effleurer. C'est un sujet clivant aussi qui donne lieu à des débats passionnés. Est-ce qu'il arrive que vous heurtez le ton de ces débats? Je pense à M. Trump, là, notamment, qui ont élu haut la main nos voisins américains. Comment vous vivez ça?
Mais il a exploité la migration illégale qui vient du Canada, qui vient du Mexique, pour taper sur Mme Harris et M. Biden. Monsieur Biden était très tolérant à cause des ententes internationales de l'ONU en 56, l'entente de Genève qui permet la migration, mais elle est un peu plus structurée qu'à l'heure actuelle. Mais actuellement, on a perdu le contrôle complètement. Quand un migrant ou bien un réfugié qui rentre aux États-Unis se déplacer vers le Canada et vice-versa. Et puis ça, c'est une entente de 56, on est de 2024. Ça s'applique pas aujourd'hui.
Albert, dernière question en 15-20 secondes. Là. Québec et Ottawa ont tous les deux annoncé qu'ils révisaient à la baisse leur seuil d'immigration. C'est sage?
Pourvu qu'il la restructure après. Parce que on a besoin de main-d'œuvre. On a dans quelques secteurs. Cette main-d'œuvre, elle doit venir de quelque part. Malheureusement, cette main-d'œuvre, on ne l'a pas ici pour le moment. Jusqu'à ce qu'elle soit adaptée, on doit avoir quelques ressources externes. Mais pour la migration des réfugiés, il faut se pencher sérieusement internationalement sur ce mécanisme.
Très bien.
Regardez l'Europe, comment ils vivent.
Ben justement, on va retrouver votre successeur, Sylvain Simard, qui est en France. Merci beaucoup, Albert Kelfa. Prenez soin de vous.
Merci. Portez-vous bien. Dites bonjour à Sylvain aussi.
Vous avez entendu Albert vous saluer, Sylvain Simard?
Oui, et puis j'en profite aussi pour le saluer. Je trouve ça merveilleux que nous ayons comme ça à pouvoir se succéder au micro alors que nous avons beaucoup d'amitié l'un pour l'autre et c'est quel bel exemple d'immigration réussie.
Ah oui, en effet. Vous avez succédé, Albert Kelfa, à titre de député de Richelieu, titre qui a été le vôtre pendant près de 20 ans. Pendant ces deux décennies, vous avez, lorsque votre parti a formé le gouvernement, occupé plusieurs fonctions ministérielles, dont celle de ministre des Relations avec les citoyens et de l'immigration. Ce ne sont pas celles que vous avez occupées le plus longtemps, mais les avez-vous occupés assez longtemps pour y imprimer, comment dire, votre personnalité, vos convictions?
Non, pas vraiment, parce que ça a été moins de 6 mois et c'était passionnant, mais c'est un sujet qui, de toute façon, qui m'intéresse, mais qui intéresse tout le monde maintenant. Je pense qu'il y a des gens qui sont obsédés par cette question-là, et c'est excessif. Il faut pas en faire une obsession. C'est pas la cause de tous les problèmes, c'est pas la solution à tous les problèmes non plus. Il faut garder un peu de distance par rapport à ça. Mais Albert le soulignait tout à l'heure, aux États-Unis, en Europe, partout, c'est le sujet majeur. Donc, c'est pas étonnant que ça nous rejoigne au Québec actuellement.
Oui, mais je lisais en France, Sylvain, que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, veut rendre le pays, là, je le cite, moins attractif. Est-ce que c'est en France, où vous vivez maintenant, une question aussi clivante que ce l'est ici?
Oui, absolument. C'est le sujet sous-jacent de toute la politique. Et c'est pas qu'en France, si vous regardez maintenant en Allemagne aussi, en Autriche, un peu partout en Europe. Et ça a été le sujet central de l'élection au Royaume-Uni il y a quelques mois. Donc c'est un sujet majeur partout pour des raisons très simples. C'est que il y a une surpopulation sur des continents, et ailleurs, il y a un appel, une demande de main-d'œuvre, ce qui fait que les gens ont beaucoup tendance à quitter les pays très pauvres, pour des raisons diverses, mais d'abord et avant tout économiques, pour essayer de faire leur vie, de gagner leur vie, d'assurer le bonheur de leur famille en migrant dans un autre pays. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts, dans la plupart des pays, nous ne sommes pas prêts... Albert parlait avec sagesse tout à l'heure de structuration. Eh ben, ce n'est pas structuré. Les gens viennent de façon souvent illégale. On a vécu ça avec le chemin Roxham il y a quelque temps au Québec aussi. Les gens viennent souvent de façon non prévue, non organisée. Et c'est là que les problèmes commencent. Nous n'avons pas les structures d'accueil nécessaires. Et en plus, le Québec a un problème très particulier. Il est le seul, c'est la seule nation francophone en Amérique, et nous ne pouvons pas, simplement parce que nous avons besoin d'une main-d'œuvre rapidement, oublier nos responsabilités par rapport à cette réalité-là qui est celle du peuple québécois. Donc, je pense qu'on accueille beaucoup au Québec, comme on accueille d'ailleurs dans tous les pays d'Europe actuellement, mais que les problèmes qui se posent ailleurs commencent à se poser aussi au Québec. Notamment l'immigration temporaire qui a pris le dessus, qui est devenue, sur laquelle on a un peu perdu le contrôle.
Oui, ce n'est plus le phénomène marginal que c'était par le passé. C'est sain de s'interroger sur la manière de réussir l'immigration. C'est démontrer avoir le sens des responsabilités, c'est faire de la politique avec un grand P.
Il faut éviter de juger tout le monde sur cette base-là. Moi, quand j'entends un député, je ne vais pas le nommer, là, ces derniers jours, au Québec, qui dénonce l'ensemble de ses collègues, soi-disant, parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils osent parler de ces problèmes-là, ça, c'est inacceptable. Ce sont de vrais problèmes, et une société a le droit de se questionner. Une société a le droit d'avoir une conversation, une discussion publique sur des sujets fondamentaux, sans que ce soit assimilé à du racisme à chaque fois. Ça, il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a des gens qui sont prompts à dénoncer toute tentative de rationalisation là-dedans. Ceci dit, je le disais tout à l'heure, ce n'est certainement pas la cause de tous les problèmes, ce n'est pas le seul sujet. Il faut savoir aussi s'intéresser au niveau de vie de la population, aux lois droit, du travail, à 1000 sujets importants, mais celui-là, il est capital et particulièrement au Québec.
Ouais, l'immigration temporaire, vous en parliez, c'est devenu le principal moteur de croissance de la population québécoise. Là. Et pour atteindre la cible fédérale de 5 % de la population, il faudrait faire passer au Québec le nombre de nouveaux permis émis de 269 000 en 2024 à 91 000 en 2027, trois fois moins. Est-ce que ça pourrait pas plomber la croissance économique, ça?
Oui, ben écoutez, avant les 4 ou 5 dernières années, si on regarde les chiffres, on retrouvait à peu près ce nombre d'immigrés temporaires. Donc, c'est revenir à une situation dans laquelle on survivait quand même. On se rappelle, les gens du comté vont se rappeler, il y a quelques années, il y avait le seul immigration temporaire qu'on connaissait, c'était chez les agriculteurs. Moi, je me souviens très bien, à Saint-Aimé, à Saint-Robert, un peu partout autour de Massuville, il y avait des cultivateurs, des paysans, des gens, des fermiers qui engageaient chaque printemps pour une culture en particulier des Mexicains, des Guatémaltèques. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils n'auraient pas trouvé de main-d'œuvre. Maintenant, ce phénomène qui était marginal est devenu un vrai phénomène de société. Les gens arrivent par dizaines de milliers pour répondre à des besoins d'emploi, mais ça ne peut pas se faire dans le désordre dans lequel ça se fait actuellement. Il faut remettre de l'ordre là-dedans.
Alors, c'est là que vous rejoignez Albert, finalement. En terminant, en quelques secondes, le Québec doit-il, en raison de sa situation linguistique particulière à laquelle vous faisiez allusion tantôt, les nouvelles étant plutôt mauvaises pour le français présentement d'ailleurs, revendiquer les pleins pouvoirs en immigration?
Bon, ça a toujours été, depuis très très longtemps, la principale réclamation de tous les gouvernements, qu'ils soient souverainistes ou fédéralistes, d'avoir le plus de pouvoir possible en immigration. Je crois que ce serait non pas la solution à tous les problèmes, puisque nous devrions à ce moment-là nous-mêmes régler ce problème-là, mais je pense que ce serait une garantie, une protection pour nous assurer que la langue française, notre réalité québécoise, notre nationalité puisse passer à travers les difficultés que nous connaissons actuellement.
Merci beaucoup, Sylvain Simard. Toujours un plaisir de vous parler. Merci.
Je vous en prie. À bientôt. Au revoir.
Plaisir. On se rend à la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy où le directeur général de l'organisme, Luc Martel, nous attend. Bonjour, Luc.
Bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Ça va bien. Et le portrait de la main-d'œuvre, à quoi ressemble-t-il dans la région? Dis-moi, en date du 19 novembre, sommes-nous toujours en pénurie, une pénurie qu'aggraverait un ralentissement de l'immigration?
Bien, c'est sûr que c'est pas encore une situation, tu sais, c'est en train de changer, mais la situation n'est pas est loin d'être résolue, puis elle risque de s'empirer, tu sais. Le gros problème là, qui sort, c'est que, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de planification dans les programmes d'immigration. Puis ce que ça fait, c'est que ça l'oblige les entreprises, pour eux, à essayer de planifier sans avoir de prévision. Puis, tu sais, on a des travailleurs qui apprenaient le français en francisation, soit par les soirs ou dans leur temps libre, qui, là, se retrouvent puis qui n'ont plus trop de français, puis que, là, ça va reposer sur les épaules des entreprises dans la région. Puis on le sait qu'on a des nouvelles entreprises qui vont venir s'installer. On sait qu'on va avoir des besoins de main-d'œuvre, puis il faut pas que ça devienne un frein à ça. Tu sais, naturellement, c'est ça.
Les gens venus d'ailleurs dans le monde trouver ici du travail, dans quel secteur de l'activité économique les retrouve-t-on majoritairement?
Bien, c'est sûr qu'il y a dans le volet industriel, mais aussi également dans les services, notamment, tu sais, dans nos hôpitaux, dans nos grosses usines d'acierie, dans les comment les, moi je veux dire en anglais les machine shops là, mais tu sais dans les machinistes, les soudeurs, tu sais, ça c'est vraiment des types d'emploi dans notre région qui sont importants puis qui ont un besoin aussi, tu sais.
Comment s'intègre-t-il, Luc, dans leur milieu de travail? Quels échos avez-vous?
Bien, moi, ce que j'entends, c'est que ça se passe bien. Puis, heureusement, on a des organismes dans la région qui viennent soutenir les entreprises pour les accompagner dans ces démarches-là, là, pour l'Orientec, pour ne pas les nommer, puis, tu sais, le CGE. Mais, tu sais, moi, dans mon autre vie, j'ai été chargé de projet en immigration. J'entendais tantôt Mme Nathalie là, qui parlait de que oui, ils doivent s'intégrer dans le milieu de travail, puis les entreprises mettent vraiment en place, là, il y, y a des belles initiatives qui sont prises par les entreprises dans la région ici, justement pour les aider au travail, mais ça prend aussi des organismes comme l'Orientec pour, après le travail, s'intégrer dans la vie sociale aussi. C'est pas juste, on vit pas juste pour travailler. Non.
D'accord. Puisque vous avez parlé deux fois là, d'Accès Région, l'Orientec, il y en a peut-être qui vont se dire, voyons, Rochon, ils n'ont pas invité. Alors oui, je leur ai lancé l'invitation il y a une semaine, mais ils ont considéré que c'était une semaine des délais insuffisants pour être des nôtres. Alors voilà, c'est réglé. Elles sont devenues, Luc, les entreprises québécoises accros aux travailleurs temporaires. C'est-tu votre constat?
Ben c'est pas accro, mais c'est que le besoin est là. On peut pas inventer du monde. C'est sûr que tu sais, il y a le volet robotisation, automatisation, tu sais, l'intelligence artificielle qui va venir améliorer la production des entreprises qui ont pris les devants puis qui prennent les mesures pour le faire. Mais tu sais, t'as d'autres entreprises aussi qui misent sur l'arrivée de personnes immigrantes, puis c'est pas des processus qui sont faciles non plus là. Avoir un certificat de travail là, permis de travail, c'est pas évident là. C'est les démarches les plus compliquées, puis il faut renouveler ça. Fait que tu sais, c'est pas qu'ils sont rendus accros, mais le besoin est là.
Alors restreindre l'immigration, c'est pas de la musique à vos oreilles ça?
Ben, ça, tout dépend comment est fait, puis il y a plusieurs types d'immigration en place. Ce qu'il faut, c'est avoir une structure, avoir une vision, un plan de match, et puis s'il y a des ajustements à faire, on les fait, mais il faut s'y référer. Je sais bien que nos entreprises sont résilientes, mais le milieu des affaires ne peut pas se retourner sur un dixaine en fonction des humeurs politiques qui changent au gré du temps.
Oui, je comprends. Et merci beaucoup, Luc Martel. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
Hey, ça a été un plaisir, Sylvain.
À bientôt. Après les publicités que nous avons à vous faire entendre, je m'entretiens avec nos députés, Louis Plamondon et Jean-Bernard Raymond.
La ville de Saint-Joseph-de-Sorel vous invite à participer à la 11e édition de la Féerie des Lumières les 6 et 7 décembre prochains. Assiste au spectacle de King Melrose. Suzy Villeneuve. DJ Marty. Venez vous amuser en famille. Jeux d'adresse sous le grand igloo, jeux vidéo, jeux gonflables, feux extérieurs et feux d'artifice. Food truck et bar sur place. L'accès au site, les activités et les spectacles sont gratuits. Découvrez toute la programmation sur feeriedeslumieres.ca. La Féerie des Lumières est une présentation de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, Desjardins, CJSO et Fincon Steel.
Les soldes du Vendredi Fou sont en cours chez Meubles André Beaulieu du 21 novembre au 4 décembre. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos marques d'électroménager préférées, Whirlpool, Maytag et KitchenAid. Économisez jusqu'à 300$ à l'achat de plusieurs appareils de cuisine. Profitez également de 100$ de rabais sur les ensembles de lessive Whirlpool et Maytag et obtenez un an de détergent Swash. Ne manquez pas les meilleurs prix de l'année. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu dès aujourd'hui pour en profiter.
Bonjour tout le monde. Bon, donc, comme vous le savez, cette année, on veut être encore meilleur puis pas être juste dans le mix. Hein? Je vous annonce donc l'ajout d'un joueur de location, le Chevrolet Silverado 1500 2024. Avec son taux à 1,9% puis son moteur turbo max de 430 livres-pieds de couple. Ça, mes amis, c'est une vraie aubaine.
Mettez la main sur un joueur de premier plan. Obtenez un taux de location à partir de 1,9% sur les modèles Silverado 2024 sélectionnés. Détails et conditions à offrechevrolet.ca.
Ce mardi, dans Valérie l'après-midi, on parle de nos animaux de compagnie avec la vétérinaire Caroline Kilsdunk. Il sera question de la dernière semaine de l'autrice compositrice interprète Chloé Leclerc. Et on réfléchit avec les quêtes de Mélanie Raté-Bisaillon.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
C'est au dossier de l'immigration qu'on s'intéresse ce midi à la Tribune. Comment se vit-elle l'immigration dans la région? Les ingrédients sont-ils réunis pour qu'elle soit réussie? Les gens venus d'ailleurs, là, trouver chez nous du travail, un logement décent, un filet de sécurité pour leur famille, sont-ils bien servis? On fait un long voyage jusqu'à Ottawa où nous attend Louis Plamondon. Bonjour Louis Plamondon.
Oui, bonjour.
Avez-vous, M. Plamondon, regardé sur YouTube ou vu autrement la vidéo de près de 7 minutes du premier ministre Trudeau dans laquelle il évoque la récente réduction du nombre de résidents permanents admis au Canada puis les changements apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires? Il reconnaît que le fédéral aurait pu agir plus rapidement pour réformer les programmes d'immigration?
Ah oui, c'était complètement fou de vouloir avoir 500 000 immigrants par année, et puis d'obtenir que le Canada, en 2050, ait 100 millions de personnes, puis, tu sais, c'était un rêveur un peu, M. Trudeau, là, fait que là, tout à coup, il dit, ouais, on peut peut-être dû, là, tu sais, c'est un aveu de mauvaise administration, là, qui fait, et pourtant, le premier ministre Legault à Québec, avec raison, disait, ça n'a pas de bon sens. En plus, en plus de l'immigration normale, on a les fameux réfugiés là, et qui rentrent en avion à l'aéroport. Et 60% du Canada rentre à Montréal. Puis les autres provinces qui n'en ont pas, là, n'en ont presque pas. Là, on a assez. Et le ministre Miller, dans le temps, quand ces gens-là arrivaient, on avait l'obligation par la loi de leur donner le bien-être, et c'est 50 millions par année que ça coûtait, pas par mois, de plus de bien-être. Puis, ils ne pouvaient pas travailler parce qu'il n'y avait pas de permis de travail, et ça prenait jusqu'à 2 ans pour avoir un permis de travail, donc ils ne servaient pas à la société, là. Ils consommaient, ils ne pouvaient pas payer des impôts, etc., et recevaient de l'argent, c'est tout.
Alors vous, là, à vos bureaux, à votre bureau de Sorel, là, vous recevez des nouveaux arrivants qui se plaignent de n'avoir pas accès au logement, aux services de santé, de garderie, d'éducation, puis à l'apprentissage du français?
C'est moins qu'à Montréal, là, c'est sûr. Écoutez, là, la moitié des médecins à l'hôpital, la moitié des médecins spécialistes viennent, sont des immigrants. Hein? Alors, c'est une très bonne immigration. Et dans les entreprises, il y en a énormément qui travaillent dans les entreprises. Et ces gens-là sont au désarroi parce qu'avec la nouvelle décision du gouvernement d'Ottawa et de Québec de dire non, les permis, là, permis de travail temporaire de 3 ans qui était renouvelable pour 3 autres années, c'est fait, là, on limite ça. Ça va être extrêmement difficile pour certaines entreprises. C'est pas là qu'il y a le problème. Le problème, c'est une meilleure répartition d'abord des réfugiés, là, qui devraient être répartis dans l'ensemble des provinces. Et puis, en même temps, peut-être que cette loi-là, que cet engagement-là qu'on a signé internationalement, M. Trudeau, là, pourrait peut-être être revisé, là. Et surtout, il faut se préparer avec l'attitude réaffirmée hier par M. Trump, de dire les 11 millions qui sont illégaux aux États-Unis, là, ça va quitter. Pensez-vous qu'ils veulent retourner dans leur pays, alors qu'ils vivent aux États-Unis depuis quelques années, quelques mois, ils vont vouloir s'en venir, ben, des chances qu'ils s'en viennent vers chez nous. Alors, il faut s'y préparer. Et ça, l'attitude du ministre Miller, là, est arrogante, elle a toujours été arrogante, ses réponses en chambre lorsqu'on lui en pose au sujet de la limitation des immigrants, parce que il faut des immigrants, mais il faut aussi les accueillir comme du monde. Hein? Mm-hmm.
Le Québec, Louis Plamondon, a-t-il sans être souverain suffisamment de levier pour s'assurer que triomphe l'ensemble des besoins sociaux, économiques, démographiques, linguistiques et culturels de la société québécoise, de même que ceux des personnes immigrantes qui s'installent ici? Est-ce qu'on les a, les pouvoirs?
Oui, on a une partie du pouvoir avec le fédéral. Et on peut accueillir la moitié à peu près des immigrants, puis eux, la moitié, mais en même temps, à coup qu'on les a accueillis, il faut quand même qu'il y ait une certaine certification là, du fédéral. Si on possédait tous les pouvoirs, et c'est ce qu'avait demandé d'ailleurs M. Legault dans son élection, il avait dit, lisez-moi, puis je vais exiger les pleins pouvoirs sur l'immigration, c'est l'élément le plus important pour notre affirmation, même pour un jour, j'espère, pour notre souveraineté, pour qu'on puisse diriger nos gens quand ils arrivent, par exemple, dans les régions, et non pas qu'ils se parquent dans des ghettos à Montréal, là. Et alors ça, c'est sûr que c'est pour pouvoir-là soit extrêmement important si les Québec, le Québec les possédait tous. Ils sont réclamés par tous les premiers ministres. Mais là, c'est sûr que Québec solidaire, on ne sait pas trop tôt comment est-ce qu'ils veulent fonctionner, mais les libéraux là-bas à Québec, là, avec M. Rodriguez qui est là, il était un des qui applaudissait le plus fort ici à la Chambre lorsque M. Trudeau, M. Trudeau disait que ça prend 500 000 immigrants. Là,
M. Plamondon, on doit déjà se laisser. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci.
C'est très court, merci.
Merci, oui, c'est court, c'est vrai. On va terminer maintenant dans notre capitale nationale où l'on joint le député de Richelieu, Jean-Bernard Raymond. Bonjour, Jean-Bernard.
Bonjour, Sylvain.
Québec solidaire adoptait en fin de semaine en congrès là, une motion dont je souhaite vous entendre sur un passage en particulier, celui où QS dénonce l'instrumentalisation injustifiée dont sont régulièrement victimes les personnes immigrantes lorsqu'on fait état de leurs difficultés d'accès au logement, aux services de santé, de garderie, d'éducation. Est-ce qu'on les instrumentalise? Les entendez-vous, vous, instrumentaliser dans les débats à l'Assemblée nationale?
Ah non, c'est un débat. C'est des propos qui sont totalement inacceptables. Il y a également le député de la même formation de Québec solidaire qui a tenu des propos qui sont très polarisants, en plus de s'attaquer de façon injuste et faussement à certains de mes collègues ministres, là. Tu sais, quand on va dans nos communautés et qu'on divise au lieu de construire des ponts, moi, je pense qu'on fait fausse route et que c'est pas digne de la fonction de député. Ceci dit, c'est un fait démographique, Sylvain, qui est bien réel, là, que l'arrivée de centaines de milliers de nouveaux immigrants au Québec ces dernières années, bien, ça a exacerbé la pression sur les réseaux. Tu sais, aujourd'hui, on parle d'immigration, de francisation. Vous pourriez faire une émission sur pourquoi pas le logement, la santé, les services de garde, les services en éducation, la pression sur nos réseaux est énorme.
Je ne peux pas ne pas aborder, parce que vous venez de parler de francisation, là, je ne peux pas ne pas aborder avec vous la fermeture de classes en francisation au Québec. Ça nous a tous un peu fait perdre notre latin. Chez nous, à Sorel-Tracy, le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes a annoncé qu'il mettait fin aux services de francisation dans le secteur des adultes. Vous avez rencontré la semaine dernière une délégation du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Elle est ressortie de vos bureaux en vous complimentant, en complimentant votre écoute, en parlant d'un entretien productif, marqué par des échanges constructifs. Qu'est-ce que vous leur avez dit qui les attend rassurés?
Ben écoutez, moi, je ressors de cette rencontre-là de la même état d'esprit que Mme Trépanier, que Lisette, et les membres du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu, les enseignantes qui étaient présentes. Ce fut une rencontre constructive, comme ça l'est toujours. Moi, je viens du milieu de l'enseignement quand j'étais plus jeune, Sylvain, alors j'ai une sensibilité particulière pour ce milieu-là. Et tout d'abord, on a rétabli certains faits. Le choix des mots est important. Je pense qu'il était inexact de dire qu'il y a eu des coupures en francisation. Cependant, ce qui a changé, c'est qu'on n'accepte plus de dépassement. Budget en francisation là, dans les centres de services scolaires, il était de 104 millions en 2023. Il a été retourné de la même montant en 2024. Et le budget total pour la francisation continue d'augmenter. Alors, dans tout l'ensemble des programmes, mais c'est 290 millions pour cette année. Donc, oui, on a eu des très bonnes discussions. J'ai entendu leur message, entre autres, d'informer rapidement leurs étudiants de la suite des choses pour les rassurer concernant, par exemple, les autres possibilités concernant la francisation et leur demande aussi d'ajouter des montants pour les prochains budgets. Moi, j'ai été rassuré et heureux de constater quand j'ai discuté avec les personnes présentes en faisant un tour de table, bien, que la majorité, voire tous, elles ont tout un travail, elles sont toujours en poste. Certaines sont en francisation maintenant, mais au niveau primaire et secondaire. Une participante avait des contrats en francisation ou en entreprise. Alors oui, c'était une belle rencontre. La réalité, c'est que la demande est trop importante. Elle a explosé dans les dernières années. Puis c'est une pression, je le disais tantôt, qui est insoutenable. Puis malgré les efforts et les investissements importants que notre gouvernement fait, bien, je réitère qu'il est impératif que le gouvernement fédéral fasse sa part en ajustant les seuils d'immigration.
Bon. Alors là, tant Ottawa que Québec ont annoncé la réduction de l'immigration temporaire. Ça aura des conséquences directes chez les employeurs qui comptent sur ces travailleurs pour maintenir leurs opérations sur les institutions d'enseignement, non? Qui misent sur cette clientèle pour accroître leurs revenus puis conserver leurs programmes, sur les régions qui profitent de leur arrivée pour contrer le déclin démographique. Est-ce qu'on a bien pesé le pour et le contre?
Ben, je pense, Sylvain, ce qui n'avait pas été bien pesé, c'était l'augmentation drastique des seuils d'immigration ou des personnes accueillies dans les dernières années. On voit les conséquences que ça amène. Du moins, je comprends les personnes immigrantes de vouloir choisir le Québec. On est un endroit où il fait très bon vivre, un endroit où il fait le mieux vivre possiblement sur la planète. On est un peuple accueillant. Alors, je les comprends très bien. Ceci dit, ben, on a un devoir comme société d'accueil de les accueillir correctement et d'être en mesure d'offrir des services qui sont adéquats non seulement à la population déjà présente, mais aux personnes qui viennent nous rejoindre. C'est sûr que ça amène des défis. Moi, j'ai envie de dire, il était temps que le fédéral allume un peu là, en ajustant plutôt que d'ouvrir nos frontières à tout vent. Je vous rappelle qu'on fait longtemps qu'on demande une meilleure distribution, entre autres de façon plus équitable, la répartition des immigrants à travers le Canada. L'an dernier, le Québec a accueilli plus de la moitié des demandeurs d'asile du Canada, soit 54 %, puis le Québec, bon, représente 23 % de la population canadienne. Alors, je pense que la répartition doit mieux se faire. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir un plan cible qui va être quelque part à peu près entre 48 500 et 50 000 immigrants, l'immigration économique pour 31 000, donc on va encore avoir des travailleurs pour nos entreprises québécoises, du regroupement familial environ 10 000, des réfugiés, quelque chose comme 6 000. Alors, je pense qu'il était temps qu'on fasse un peu de ménage dans tout ça pour travailler d'une manière plus performante avec la clientèle migrante.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond.
C'est un plaisir, Sylvain, puis je veux souligner, parce que vous incluant ce midi, vous avez eu en nombre, si je ne m'abuse, 4 représentants de Richelieu.
C'est vrai. C'est vrai.
Une époque ou une autre, puis je vous laisse vérifier dans les archives, Sylvain, mais c'est possiblement une première.
Ouais, c'était le club des ex et des actuels, complètement réunis. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Bonjour. Alors, merci à l'ensemble de mes invités, Sika Gauthier-Adomon, Nathalie Rochefort, Albert Kilfas, Sylvain Simard, Luc Martel, Louis Plamondon et Jean-Bernard Raymond. Merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. La semaine prochaine, à l'émission La Guignolée.